Je vais vous présenter donc les trois auteurs qui vont intervenir. Donc deux donc sont des juges, juristes italiens. Donc il y aura une traduction qui sera assurée par Jacques Sultan. Donc vous nous excuserez parce qu'il y aura le temps de la traduction nécessaire à assurer donc dans ces interventions. Alors je vais commencer donc par Isabelle Prévost-Desprez, qui est donc toujours présidente de la 15e chambre de la 15e chambre donc de Grande Instance de Nanterre, qui est chargée des affaires financières et qui a été chargée notamment de l'affaire Woerth-Bettencourt et qui a apporté son témoignage dans un ouvrage intitulé « Un juge à abattre ». Et donc a témoigné des difficultés que rencontrent les juges donc dans ce genre d'affaires financières particulières. Alors, vous pouvez l'applaudir si vous le souhaitez. Merci. J'ai à côté de moi aussi donc un procureur, un autre juge, mais celui-ci est un juge anti-mafia, qui s'appelle Roberto Scarpinato, qui vient de sortir un livre en France qui se nomme Le Retour du Prince, qui est un ouvrage très intéressant sur les mafias italiennes et aussi sur l'histoire de l'Italie. Il nous dira d'ailleurs, il nous racontera un petit peu aussi comment son expérience en tant que juge anti-mafia italien, puisqu'il a aussi travaillé aux côtés du fameux juge Falcone, dont vous connaissez le nom, qui a été assassiné, bien sûr, et donc qui était aussi un juge très connu d'anti-mafia. Voilà. Donc notre troisième intervenant, vous pouvez l'applaudir aussi parce que ses propos et son travail est également très intéressant et vous apprendrez énormément de choses sur l'organisation des mafias, mais aussi de sociétés, de l'évolution de ces mafias dans des sociétés qui ont évolué dans un libéralisme économique qui est également un cadre propice au développement de la corruption ou de mouvements mafieux. Notre troisième intervenant est un ancien avocat qui se nomme Gioacchino Criaco, voilà, et qui est auteur de romans qui ont la particularité de parler particulièrement de la mafia calabraise. Et voilà, c'est l'essentiel des thèmes de ces romans portent là-dessus. Il y en a un donc qui a été qui est traduit en français, qui se nomme Les âmes noires aux éditions Métellier, qui est un ouvrage donc récemment paru l'année dernière. Voilà. Alors, on applaudit aussi. Merci. Alors, je vais me tourner vers le procureur Scarpinato. Voilà, et donc je vais lui demander une question tout à fait simple. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un tel livre et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage autour de... Et c'est pas simplement votre travail de juge qui est dans cet ouvrage. Parlez dans le micro.
Io mi occupo da 25 anni di crimini del potere.
Je m'occupe depuis 25 ans de crimes, de criminalité.
Ho iniziato con dei processi di mafia e inseguendo i mafiosi mi sono trovato a processare un presidente del Consiglio dei ministri italiano.
J'ai été comme ça amené à poursuivre un président du Conseil.
Ministri.
Des ministres,
sénateurs,
des sénateurs,
capi dei servizi segreti,
des chefs de services secrets,
capi della polizia,
des chefs de la police,
imprenditori a capo di multinazionali,
des entrepreneurs alla tête de multinationales.
Ho processato tutte queste persone, alcune sono state condannate.
J'ai poursuivi toutes ces personnes et qui quindi, ont été condamnées.
E quindi il mio è stato un lungo viaggio attraverso il mondo del potere.
J'ai parcouru un long voyage à travers le monde du pouvoir.
E mi sono reso conto che il potere è il protagonista delle nostre vite, anche se a volte non lo sappiamo.
Et je me suis rendu compte que le pouvoir est le principal protagoniste de notre vie, même si nous ne nous en rendons pas compte.
Nel 68 francese si diceva: se tu non ti occupi di politica, la politica comunque si occupa di te.
En France, on dit, un proverbe dit: si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi.
Questo libro vuole dire che se tu non ti occupi del potere criminale, il potere criminale comunque si occupa della tua vita.
A ce même titre, ce livre dit que si tu ne t'occupes pas du pouvoir criminel, le pouvoir criminel va s'occuper de toi.
Perché ho cercato di dimostrare come vi sia un intreccio strettissimo tra la politica, l'economia e il crimine mafioso.
J'ai essayé dans ce livre de montrer quels sont les liens très très étroits entre la politique, l'économie et les entreprises mafieuses.
Ho voluto raccontare come molti omicidi eseguiti dai mafiosi sono stati ordinati dai politici. Ho voluto spiegare come alcuni omicidi e delle stragi eseguite dai mafiosi sono state ordinate per motivi politici.
J'ai voulu montrer comment un certain nombre de massacres organisés par les entreprises mafieuses ont été commandités par l'État, par la politique.
Ho voluto spiegare come il grande capitale si mischia con i capitali mafiosi.
J'ai voulu montrer également comment le grand capital se mélange avec le capital des mafieux.
Se non si comprende che il potere è in parte anche un potere criminale, non si può capire come funziona realmente il nostro mondo.
Si on ne comprend pas que le pouvoir est aussi un pouvoir criminel, on ne comprend pas comment fonctionne ce monde.
La linea di confine tra gli assassini e gli innocenti è molto labile.
La frontiera entre les assassins e les innocents è très étroite, très flou.
Par exemple,
tra il mondo degli assassini e il mondo delle persone normali ci sono tante porte girevoli.
Entre le monde des assassins et le monde des personnes normales, il y a beaucoup de relations.
La filosofa tedesca ha scritto un libro intitolato La banalità del male. La filosofa tedesca Anna Arendt.
La filosofa allemande Anna Arendt ha écrit un livre.
Un libro intitolato La banalità del male.
Qui s'appelle La banalité du mal.
Per descrivere il nazismo.
Pour décrire le nazisme.
Dimostrando che i responsabili del nazismo non erano soltanto Hitler e alcuni gerarchi, ma era l'uomo medio tedesco.
Que les responsables du nazisme n'étaient pas seulement Hitler et certains responsables du parti nazi, mais aussi d'autres personnes beaucoup moins connues.
E questo libro vuole essere un libro sulla banalità del male, dimostrare che molto spesso complice del crimine sono anche persone che noi riteniamo normali.
Ce livre veut montrer la banalité du mal et montrer comment certaines personnes qui sont complices de ces crimes sont aussi des gens ordinaires.
I criminali esistono perché molte persone normali hanno bisogno di loro.
Les criminels existent parce que beaucoup de personnes normales ont besoin d'eux.
C'è un mondo di persone normali che vuole comprare droga, che vuole comprare prodotti di lusso contraffatti.
Par exemple, les personnes normales qui veulent acheter de la drogue ou qui veulent acheter des objets de luxe en contrefaçon.
C'è un mondo di imprenditori che vuole avere dalla mafia dei servizi che consentono di risparmiare i costi di produzione e incrementare i profitti.
Ou certaines entreprises qui cherchent auprès de la mafia des services qui leur permettent de faire des économies.
C'è un mondo di politici che chiedono voti alla mafia.
Un mondo d'hommes politiques qui demandent souvent à la mafia.
Quindi questa linea di confine è molto labile.
Donc cette frontière entre ces mondes est très très ténue.
Ouais, alors vous dites que cette frontière est très ténue, mais on a l'impression que finalement le système économique laisse faire ce genre élimine également ses frontières. On a cette impression qui ressort d'ailleurs dans l'ouvrage, dont je rappelle d'ailleurs que c'est un entretien réalisé par donc un journaliste italien de l'UNITA. Donc je vais rappeler son nom, c'est Saverio Lodato. Mais j'aimerais savoir si vraiment il y a une imbrication qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la part de l'économie normale, de l'économie mafieuse.
L'Aidish e i confini sono molto stretti tra questi due mondi e ha detto anche che il suo libro è stato un'intervista con un giornalista dell'Unità, ma vorrebbe anche sapere, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième partie de votre question?
Oui, ce qui disait donc le juste Capitano, c'est que on a l'impression qu'il y a une imbrication entre économie mafieuse et économie réelle, économie normale, légale.
Si. Questo legame tra l'economia mafiosa e l'economia normale, légale.
Est-ce que aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que l'on voit toujours se développer cette économie mafieuse? Est-ce qu'elle gangrène toujours cette économie légale?
La situation di oggi è sempre questa. C'è sempre questo legame tra l'economia mafiosa e l'economia normale?
Ma la novità è che prima questo accadeva in Italia, oggi accade in tutto il mondo.
La première chose à dire là-dessus, c'est que ce système maintenant existe dans le monde entier.
Perché la mafia offre sul mercato dei beni e dei servizi illegali per cui c'è una fortissima richiesta in tutto il mondo.
Parce que la mafia offre de façon normale des biens et des services légaux pour lesquels il existe une très forte demande dans le monde entier.
E quindi l'economia mafiosa sta diventando forte in Germania, sta diventando forte in tanti paesi europei.
L'économie mafieuse est en train de se renforcer en Allemagne, dans de nombreux pays européens.
Per esempio in Germania gli imprenditori mafiosi costruiscono palazzi con uno sconto del 40% rispetto agli imprenditori tedeschi.
Par exemple, en Allemagne, les entrepreneurs mafieux construisent des immeubles avec des réductions, enfin des économies de coûts de presque 40%.
E quindi stanno conquistando il mercato.
Donc ils sont en train de conquérir le marché.
La gente è contenta di risparmiare, i mafiosi sono contenti di vendere e l'economia gira.
Les gens sont contents de faire des économies, la mafia est contente de vendre, donc tout le monde est content et l'économie tourne.
Per esempio, i mafiosi stanno investendo moltissimo in Spagna, che è in crisi.
Par exemple, les mafieux investissent énormément en ce moment en Espagne, qui est un pays en crise.
A nessuno interessa da dove vengono questi soldi.
E nessuno?
A nessuno interessa da dove vengono questi soldi.
E personne ne s'intéresse de savoir d'où vient cet argent.
L'importante è che i soldi fanno girare l'economia.
La chose importante, c'est que l'économie continue à tourner.
D'accord. Gioacchino, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le juge Scarpinato? Est-ce qu'on retrouve aussi cette atmosphère dans vos livres?
Sì,
oui, je le pense.
Il dottor Scarpinato vi ha spiegato molto bene di due mondi, la mafia in senso classico e il mondo del potere, della politica, degli affari, dell'economia.
Le docteur Scarpinato explique bien la juxtaposition du monde de la mafia e du monde de l'economia normale.
Io spiego con la mia storia quel mondo criminale che stava in mezzo.
Moi j'explique dans mon histoire le monde criminel qui se trouve au centre de cela.
Cioè, c'era un popolo, c'è stato per tanti anni un popolo che era schiacciato dalla mafia e diciamo dalla politica, per indicare l'altro mondo, il mondo del potere ufficiale.
C'est un monde qui a été pendant longtemps chassé à la fois par la mafia et par le monde politique.
La maggior parte di questo popolo ha subito la violenza mafiosa e l'arroganza del potere.
La maggior parte di ce popolo ha sofferto a la fois de la violenza mafiosa e de l'arroganza du pouvoir.
Una parte di questo popolo ha scelto di combattere entrambi.
Une partie de ce peuple a choisi de combattre ces deux axes.
Ils sont les âmes noires.
Ce sont ce que j'ai appelé les âmes noires.
Che sono partiti per lottare ideologicamente un potere.
Ils ont décidé de lutter de façon idéologique contre le pouvoir.
hanno fatto un viaggio infernale.
Et ils ont entrepris un voyage infernal.
Hanno iniziato con i sequestri di persona nell'Aspromonte.
Ils ont commencé par faire des enlèvements de personnes dans les montagnes de l'Aspromonte, qui sont une région de la Calabre, la montagne de la Calabre.
Hanno dominato il traffico di droga dell'eroina prima e della cocaina dopo.
Ils ont dominé le trafic de drogue, d'eroïne d'abord et de cocaïne ensuite.
E alla fine si sono guardati in uno specchio.
Et à la fin ils se sont regardés dans un miroir.
E hanno detto: noi siamo uguali a quelli che combattevamo.
Et ils se sont dit: nous sommes égaux, nous sommes aussi puissants que ceux que nous combattons.
Nous sommes la même chose.
Nous sommes la même chose.
E hanno deciso di raccontare 30 anni di storia criminale loro.
Et ils ont décidé de raconter 30 années de leur histoire criminelle à eux.
Loro si sono messi nudi.
Ils se sont mis à nu.
E senza ipocrisia.
Et sans hypocrisie.
Hanno spiegato come nasce il male.
Ils ont expliqué comment le mal apparaît.
E come si diventa cattivi e qual è il destino segnato di chi fa il male.
Comment on devient méchant et quel est le parcours qu'on traverse pour devenir méchant, pour faire partie des forces du mal.
Un percorso che soprattutto distruggerà le vite degli innocenti.
Un percorso?
Che soprattutto distruggerà le vite degli innocenti.
Un parcours qui va surtout détruire des vies innocentes.
Ma che alla fine distruggerà anche loro.
Mais qui à la fin les détruira eux-mêmes.
La cosa che è eccezionale è come pochi, perché l'Aspromonte è abitato da pochissime persone.
La chose exceptionnelle c'est comment aussi peu de personnes, parce que l'Aspromonte est habité par très peu de personnes.
Sì. Sono partiti come una falange macedone.
Sont partis comme une phalange macédonienne.
E hanno conquistato il mondo criminale.
Et ils ont conquis le monde criminel.
E nella negatività è eccezionale. Come hanno potuto raggiungere questo potere? Chi ha spianato la strada a questo potere?
Dans une négativité exceptionnelle, comment ils ont pu s'engager dans cette voie?
Perché in realtà della mafia siciliana si parla da un po' di tempo.
En réalité, on parle depuis longtemps de la mafia sicilienne.
Ma la mafia calabrese fino a qualche anno fa era completamente sconosciuta.
Mais la mafia calabrese était il y a encore peu de temps complètement inconnue.
Sì,
et qu'est-elle devenue alors?
Sì.
Qu'est-elle devenue donc aujourd'hui? Elle est la plus puissante.
Nel silenzio è diventata forse la mafia più forte, soprattutto nel traffico
dans le
della
silence,
droga.
Dans le silence régnant, cette mafia est devenue plus forte, et en particulier dans le domaine du trafic de la drogue.
Avez-vous, en tant qu'avocat, été confronté justement à ces personnes que vous décrivez dans vos livres?
Sì, ma oui. Non è tanto la storia che racconto perché ho fatto l'avvocato a Milano.
Mais ce n'est pas ça l'histoire que je raconte parce que j'ai été avocat à Milan il y a quelques années, je ne le suis plus maintenant.
Sì, ma perché in realtà i paesi dove si dice che l'andrangheta sia nata sono tre paesi della Locride.
Parce que les pays où on dit que l'andrangheta, qui est le nom de cette mafia calabrese, est né, sont trois petits villages de l'Aspromonte.
Che sono San Luca, Platì e Africo.
San Luca, Bladi e Apico.
E io sono di Africo.
E moi je suis originaire de Africo.
E quindi io sono stato compagno di scuola, compagno di giochi, sono cresciuto insieme a quelli che poi nella criminalità internazionale sono diventati.
J'ai été élevé avec ces jeunes gens, j'ai été à l'école avec eux, j'ai joué avec eux, avec ces jeunes gens qui sont devenus des criminels célèbres sur le plan international.
Quindi io conosco come è nato il fenomeno criminale, ho sempre conosciuto queste persone e
je sais comment s'est développé ce phénomène criminal, j'ai vécu à côté de ces personnes.
E ho fatto una scelta particolare di non raccontare io, ma di far raccontare a chi ha fatto il male.
Et j'ai choisi non pas de raconter moi-même, mais de faire raconter cette histoire par ceux qui en sont les protagonistes, ceux qui ont fait le mal le racontent eux-mêmes.
Est-ce que ça vous a valu quand même quelques soucis, non? Quelques pressions? Vous avez été menacé?
Non.
Non, je n'ai pas été menacé.
Non, jamais. Io sono tornato a vivere in Calabria, io vivo in Aspromonte.
Je suis retourné vivre en Calabre, je vis dans l'Aspromonte.
Vivo normalmente tutti i giorni alla Locride.
Je vis normalement au quotidien.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite pause avant de continuer?
Y a plus rien.
De rétention au cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un. Un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité
à la ronde.
Et dans ce flot du numérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est quand il se croit français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est quand il se croit français.
Avec tous ces
chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros sel, c'est des tomahawks ou des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux, allez, Paris sera beau.
We'll be right back.
Voilà, après cette pause musicale, donc on va reprendre notre débat.
La pause musicale est reprendiamo.
Avec donc Isabelle Prévost-Desprez, que je souhaiterais faire réagir par rapport à ce qui a été dit dans cette première partie du débat. Que pense-t-elle justement de ce qui a été dit par le juge Scarpitano notamment ?
Alors, simplement, sur une notion qui est celle de mafia, on peut rebondir en comparant le système mafieux italien au système mafieux corse. Et au-delà de l'anecdote, souligner dans ce qui vient d'être dit le fait de constant de l'utilisation des systèmes légaux, bancaires et financiers pour blanchir l'argent de la délinquance organisée. Donc la problématique se situe alors à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on a des réseaux de délinquance organisée, donc qualifiés de mafia en Italie, identifiés historiquement et sociologiquement, en France et dans d'autres pays européens, de délinquance organisée aux méthodes mafieuses. Et cet argent, il faut réussir à l'utiliser, à en profiter, c'est quand même le but du jeu de tous ces individus, chefs de réseau. Et donc on va utiliser des systèmes bancaires qui sont désormais internationaux, et là je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur l'utilisation dans les pays européens des systèmes installés. Et là se pose donc le contrôle du pouvoir bancaire et financier par donc la justice via les policiers et les juges, et donc de faire en sorte qu'on puisse découvrir le produit de la délinquance organisée pour y mettre fin, puisque c'est en confisquant cet argent et en éliminant cette ressource qu'on peut éradiquer à la base la délinquance organisée. Donc ça c'est le plan idéal d'une justice idéale. Et on s'aperçoit évidemment que le pouvoir financier, qui est le réel pouvoir, va maîtriser le pouvoir politique. Et c'est pour ça que dans les dossiers d'instruction et d'enquête, on en arrive très rapidement au pouvoir politique, qui va, sur instigation du pouvoir financier, faire en sorte que cet argent gris, un mélange d'argent blanc présumé donc légal et l'argent illégal qu'on peut découvrir, soit protégé et que finalement on puisse continuer à faire ces petites affaires entre amis, parce que finalement avec les complicités volontaires ou tacites pour continuer à produire des intérêts ou un système financier qui perdure, on laisse faire sciemment, et la lutte contre la délinquance organisée est simplement un affichage politique. Uniquement ça, puisqu'il n'y a pas de réelle volonté du politique, en Europe en tout cas, de lutter contre la délinquance organisée.
Vous avez vous-même eu affaire à ce genre de dossier, puisque vous m'aviez dit que vous aviez également été dans le pôle financier, entre autres.
Oui, dans de multiples dossiers se pose le problème en finale du contrôle de l'origine des fonds, puisque c'est d'ailleurs la caractérisation de l'infraction de blanchiment, c'est-à-dire on ne blanchit que de l'argent sale. Donc il faut pouvoir déterminer que cet argent est sale et par là même voir à quel moment cet argent rentrait dans le système légal pour que le délinquant puisse en profiter. Donc nous avons eu plusieurs dossiers au pôle financier emblématiques, d'autres dont on a moins parlé. Notamment le dossier dit de blanchiment du sentier, qui impliquait toutes les banques françaises qui ne contrôlaient pas l'origine des fonds, qui étaient en fait des abus de biens sociaux, etc., qui étaient blanchis dans des bureaux de change en Israël et qui revenaient par un système de compensation sur le territoire national. Donc ce petit système, qui n'est pas un système très compliqué de blanchiment, s'est avéré tout à fait monstrueux en flux, mais aussi à révéler le fait que les banques françaises se refusaient à contrôler l'origine des fonds, sous une apparence de lutte contre le blanchiment et de participation à la lutte contre le blanchiment.
Bien. Roberto Scarpitano, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez aussi travaillé également sur la France avec les réseaux mafieux, l'extension
des... sur les problèmes français avec ces réseaux mafieux?
Ma in Francia c'è stata una delle più grandi organizzazioni mafiose.
En France, il y a une des plus grandes organisations mafieuses.
A Marsiglia.
À Marseille.
Che era la organizzazione che era diventata la più importante nel traffico della droga.
Ce qui est une des organisations qui est devenue les plus importantes dans le trafic de la drogue.
Poi i marsigliesi sono stati sconfitti, hanno dato il loro know-how alla mafia siciliana.
Et puis les Marseillais ont été vaincus, ont été battus par la mafia sicilienne.
Ma alcuni mafiosi hanno scelto di vivere e restare in Francia.
Certains mafieux ont décidé de vivre et de rester, certains mafieux siciliens, de vivre et de rester en France.
d'investir anche in territori francesi.
Comunque, d'investir donc également le territoire français.
Comunque diciamo che la mafia in questo periodo storico preferisce investire in paesi dell'est, in paesi come la Germania, paesi come la Spagna.
Dans cette période historique, la mafia préfère investir dans les pays de l'Est ou dans des pays européens qui sont en difficulté comme l'Espagne.
D'accord. Alors on a parlé aussi donc de proximité entre...
Si est par là, donc elle dit proximité,
entre pouvoir politique et donc et mafia, mais on peut parler également aussi de financement occulte et de corruption. Et là, je reviens vers Isabelle Prévost-Despresses, puisque dans un juge à abattre, vous avez évoqué cette situation-là, donc dans la fameuse affaire, notamment dans la fameuse affaire Bettencourt. Et puis également, vous êtes revenu dans un autre livre, Sarko Matué. Vous avez été interrogé sur cette affaire-là, et ce qui vous a valu quand même quelques ennuis, dont tout le monde sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ces proximités entre financement occulte, pouvoir politique, etc. Est-ce qu'on assiste aussi, comme en Italie, à ce genre de phénomène on parle pas de mafia ici, bien sûr.
Alors, dans l'affaire Bettencourt, je ne dirais strictement rien. D'abord parce que le volet que j'ai eu à traiter était dans le cadre d'un supplément d'information concernant une personne dont tout le monde a retenu le nom, qui était prévenue d'abus de faiblesse au préjudice de Madame Bettencourt. Et c'est surtout dans le cadre d'enregistrements clandestins qu'ont été révélés certains faits qui ont donné lieu au corps défendant de certains magistrats du parquet à des ouvertures d'informations qui ont été transférées à Bordeaux après une manipulation que tout le monde connaît pour enlever cette affaire au tribunal de Nanterre. Donc cette instruction évolue. Qu'on parle de financement de partis politiques, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas les chefs d'ouverture d'information à Bordeaux, en tout cas de ce chef-là. Il est arrivé, je pense, dans le passé, des affaires dont on a parlé, qui ont été jugées et qui ont démontré en audience publique les liens entre le pouvoir politique et des systèmes de détournement de fonds et de corruption. L'affaire Elf a été jugée, je pense qu'elle a démontré ces liens. Peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout sur l'implication du pouvoir politique, mais la justice fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a et les pressions qu'elle subit. Il y a eu d'autres affaires qui montraient des liens entre le pouvoir politique et la délinquance organisée. Je crois que je peux parfaitement rejoindre nos amis italiens pour dire que c'est un fait évident et avéré, que maintenant, force doit rester à la loi et à la justice, et que ça n'est pas le tout de le dire quand on est journaliste, et ça, c'est normal. Quand on est juge, il faut le prouver, et c'est parfois très difficile.
Mais vous n'avez pas le sentiment, quand même, de manquer de moyens judiciaires pour ce genre de dossier ?
Alors, la raison de l'écriture d'une juge à abattre, c'était à un moment donné, après une quinzaine d'années comme juge d'instruction financier, et puis passer dans un endroit où je pensais qu'on respectait quand même la collégialité, c'est-à-dire trois juges indépendants qui jugeaient des affaires en audience publique, c'est de constater qu'on voulait faire disparaître le juge d'instruction. Donc en 2010, il y avait une forte pression du pouvoir politique pour faire disparaître le juge d'instruction. Et évidemment, depuis des années au pôle financier, nous n'avons plus les moyens de travailler. On a d'abord éliminé le maximum de policiers compétents avec lesquels on travaillait par un jeu de mutation. On n'en a pas recruté beaucoup. La formation a été laissée de côté. Et les juges d'instruction qui s'occupaient des gros dossiers, on leur a montré la sortie quand même de manière plus ou moins aimable. Les moyens, nous ne les avons toujours pas. Il y a des moyens matériels, évidemment, des moyens en force de police qui pourraient travailler sur ces dossiers qui sont très très compliqués, très lourds à traiter. Et puis si on nous enlevait une pression instrumentalisée parfois par les biais des médias, on pourrait peut-être être plus tranquille. Et puis les attaques personnelles qui font qu'on perd beaucoup de temps à essayer de ne pas répondre et à essayer de continuer de travailler. Et ça, c'est un des aspects du métier qui est devenu insupportable.
Roberto Scapitano voudrait réagir.
Je voudrais dire une chose.
La France et l'Italie, c'est une différence fondamentale.
Entre la France et l'Italie, il y a une différence fondamentale.
In Italia il pubblico ministero è indipendente dal potere politico.
En Italie, le ministère public est indépendant par rapport au, au pouvoir politique.
In Francia il pubblico ministero è dipendente dal potere pubblico.
En France, le ministère public est dépendant du pouvoir politique.
Questo fa la differenza.
C'est ça la principale différence.
In Italia il mondo politico è in guerra contro la magistratura.
En Italie, le monde politique est en guerre contre la magistrature.
Sta facendo di tutto per fare diventare i pubblici ministeri italiani come quelli francesi.
Ils sont en train de tout essayer pour faire en sorte que la situation en Italie devienne celle qu'elle est actuellement en France.
E noi magistrati italiani stiamo resistendo per non diventare come i pubblici ministeri francesi.
Et nous, nous sommes dans une situation de résistance pour ne pas devenir comme le ministère public en France.
In Italia c'è una forte corruzione, c'è una forte mafia, ma c'è anche una forte magistratura contro la corruzione e contro la mafia.
En Italie, il y a une forte corruption, une mafia forte, mais aussi un pouvoir judiciaire, des magistrats qui résistent fortement contre ces pouvoirs.
Io mi chiedo, in Francia, i pubblici ministeri, i giudici possono indagare sulla corruzione?
Est-ce qu'en France, le ministère public, les juges peuvent enquêter sur la corruption? C'est une question que je pose.
Oppure coloro che indagano sono condannati a subire procedimenti disciplinari e trasferimenti?
Et sans parler de ceux qui sont poursuivis, qui ont des poursuites disciplinaires et qui ne peuvent plus travailler.
Alors le problème non est des ressources de polizia.
Alors le problème n'est pas tellement un problème de ressources et de moyens policiers.
Alors le problème est d'une constitution qui doit garantir ai magistrati l'indipendenza dal potere politico, altrimenti indagini sul potere politico non se ne possono fare.
Le problème est de garantir au pouvoir judiciaire une indépendance par rapport au pouvoir politique.
Vous avez quelque chose à dire, Gioacchino, par rapport à ça, par rapport au problème que rencontre la justice en Europe particulièrement?
Sì, giustamente non sono un tecnico, no.
Moi je ne suis pas un technicien.
Ai due magistrati, però da quello che vi ha detto il dottor Scarpinato, lui ha portato in giudizio il pool di Palermo, hanno portato in giudizio un presidente del Consiglio.
E lui, quand il était à Palerme, il a poursuivi un président du Conseil.
Non c'è bisogno di fare nomi, ma è un presidente del Consiglio che per 30 anni ha avuto la vita politica nazionale in mano.
Je ne voudrais pas préciser de nom, mais enfin je précise quand même qu'il s'agit d'un homme politique qui a été à la tête du pouvoir pendant 20 ans.
Quindi il problema non è di facile soluzione. Poi è vero quello che dice il dottor Scarpinato sulla differenza dei poteri del pubblico ministero o meno, però è anche vero
ce qu'il dit sur le pouvoir et le ministère public est tout à fait juste.
È anche vero che il potere poi, quando non riesce più a bloccare attraverso i provvedimenti disciplinari, succede che quello che è successo in Italia.
Alors,
che ammazza.
Lorsque le pouvoir ne peut plus réagir en empêchant les juges de faire leur travail, bien il se tourne vers des moyens plus radicaux. Sì, il les tue.
Da questo discende che il potere mafioso è funzionale a un potere politico criminale.
Le pouvoir mafieux corrisponde au pouvoir politique.
È il cane da guardia del potere corrotto politico.
Le pouvoir politique est corrompu.
Bien, Isabelle Prévost-Desprez a peut-être quelques mots à dire par rapport à ça.
D'abord, je trouve ça très bien que ce soit d'autres qui l'aient dit, parce que je vais pouvoir maintenant m'exprimer.
Et surtout, après avoir écrit... on applaudit.
Alors, je crois que la situation en France, comme vous le savez, est différente évidemment dans l'organisation, puisque le ministère public est dépendant du pouvoir. Enfin, normalement, les magistrats du parquet sont toujours des magistrats et ils ont la parole libre, notamment à l'audience, et ils peuvent refuser d'obéir à des ordres illégaux ou injustes. Mais les magistrats, on a donc des juges d'instruction, c'est-à-dire qu'en Italie, on a supprimé le juge d'instruction, mais on l'a remplacé par des procureurs indépendants. Hein. Donc il y avait une police aussi indépendante, ce qui est très important, ce n'est pas le cas en France. Hein. Oui. Donc on peut être juge d'instruction sur le papier indépendant et avoir des policiers qui travaillent, qui sont en général, et en tout cas ça a été mon cas, qui ont travaillé de manière totalement loyale avec moi, mais qui devaient rendre des comptes évidemment à leur hiérarchie, ministère de l'Intérieur, et parfois de l'Intérieur à l'Élysée, il n'y a pas loin. Donc, en fait, la difficulté... en direct. Donc, en fait, ce qui se passe en France actuellement, et depuis quelques années, c'est qu'en voulant supprimer le juge d'instruction, effectivement, on a donné tous les pouvoirs du parquet, oui, d'enquête, sans aucun contradictoire, sans aucun droit de la défense, sans aucun accès au dossier, sans un juge pour dire « cette mesure-là est juste et garantit les droits des gens ou pas ». Donc, en fait, une enquête quasiment occulte, hein, entre les mains d'un procureur qui peut parfois, de manière évidemment tout à fait exceptionnelle, être totalement aux ordres du pouvoir politique. Et donc, dans ces cas-là, ne jamais ouvrir d'instruction, ne jamais avoir de juge d'instruction indépendant qui cherche un peu partout dans un dossier, classer sans suite éventuellement la procédure si elle est gênante pour des amis du pouvoir... Et où arriver, parce qu'on est bien obligé, devant un tribunal, mais le saisir à minima sur des toutes petites infractions et sur les lampistes. Voilà, voilà ce qui est devenu la lutte contre la corruption en France. L'affaire Karachi est une affaire exceptionnelle, c'est-à-dire elle a réussi à voir le jour par l'opiniâtreté de deux juges d'instruction, Marc Trévidic et Renaud Van Ruymbeek, par aussi des magistrats du siège qui les ont désignés, des présidents de tribunaux qui ont eu ce courage de les désigner, parce qu'il faut le dire, malgré quand même une grande lutte pour que cette affaire ne voie pas le jour. Donc c'est une affaire où tout le monde est évidemment présumé innocent, mais où on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de pression. Et je voudrais rappeler là, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, que Renaud Van Ruymbeek est quand même l'exemple du juge d'instruction indépendant qui est toujours sous le coup d'une procédure disciplinaire.
Comme vous ?
Comme moi, enfin lui, je vais dire c'est pire parce que il a eu dans cette affaire Clearstream l'attitude d'un juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il a vérifié des assertions qui lui avaient été faites, il a disculpé celui qui était accusé de choses qui donc n'avaient pas lieu d'être, et il a eu comme résultat un passage devant le Conseil supérieur de la magistrature, on lui a refusé son avancement, et je dirais comme dans l'affaire du financement du Parti socialiste, où on avait dessaisi... C'est finalement Renaud Van Ruymbeek qui a terminé cette instruction et fait condamner le trésorier du Parti socialiste, M. Emmanuelli, à l'époque, c'est l'affaire Urba. Et là, de la même manière, Van Ruymbeek, on lui refuse son avancement pour qu'il parte du poste de juge d'instruction. Il reste au pôle financier et il récolte l'affaire Karachi. Conclusion, c'était pas très futé de ne pas lui donner son avancement.
Cependant, malgré votre devoir de réserve, vous n'avez quand même pas hésité à intervenir, hein, parce que dans un juge à abattre, vous avez pris quand même quelques risques. Du coup, le titre vous a mise au premier plan et vous faites partie maintenant des personnes qui sont quand même visées par le pouvoir politique. Et d'autant plus que d'ailleurs, les propos qui ont été très médiatisés, hein, à la suite du livre Sarko m'a tué, vous êtes devenu maintenant une cible, il faut le dire comme ça, quoi.
Alors, si vous voulez, bon, c'est...
Comme d'autres juges, j'allais dire.
Oui, comme d'autres.
Pas seulement Renaud Van Ruymbeek. Hein.
Dans la situation où j'étais, c'est un peu décrit dans ce livre Sarko m'a tué, dont je ne connaissais pas le titre avant qu'il paraisse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que j'avais été dessaisie sur la base... nous avions été dessaisis, mais moi en particulier, sur le supplément d'information dans cette affaire, sur la base d'une manipulation de bas étage, hein, même pas digne du KGB, pour ensuite voir ces affaires partir par la décision de la Cour de cassation, et ça, je n'en ai rien à dire, bien évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en restant à mon poste à Nanterre, on m'enlevait les dossiers, enfin bref, les choses ne se passaient pas normalement. Et donc ces journalistes sont venus me demander de m'exprimer ce que j'ai fait. Bon, je ne ferai pas d'autres commentaires, ce sera pour des explications plus tard dans le temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, accepter de continuer à fonctionner avec sous les yeux des faits de trafic d'influence objectifs, c'est-à-dire des ententes entre certains personnels judiciaires et le pouvoir politique, si on se tait et si on ne fait rien, on collabore et on accepte. J'ai pensé que c'était mon devoir de parler, quels que soient les risques encourus, comme dans Une juge à battre en 2010, j'ai pensé que mon expérience et mon analyse pouvaient être utiles simplement pour qu'on ne supprime pas le juge d'instruction et qu'on n'enlève pas aux citoyens de ce pays la seule possibilité d'avoir accès à un juge indépendant. C'est ce que j'ai dit, je vous le dis, à Madame Bettencourt, quand je l'ai entendue comme partie civile, Françoise Bettencourt, je lui ai dit quand même, cette affaire est la démonstration qu'en France, même quand on est riche et qu'on a du pouvoir, on peut ne pas réussir à avoir accès à un juge. Voilà quelqu'un, quoi qu'on en pense, qui avait porté plainte pour des faits au préjudice de sa mère, une fois de plus, quoi qu'on en pense, sur le résultat, sur l'enquête, etc., et qu'on empêchait finalement de voir justice rendue, ou en tout cas discuter de la justice et des faits qui étaient reprochés. Et pourtant, elle est riche, et pourtant, elle a le pouvoir que représente l'argent. Donc imaginez quelqu'un qui a des revenus moyens, qui est victime de faits particulièrement graves, ou même pas graves, mais graves pour cette personne, avec un procureur qui, pour un petit hobereau de province, va penser que ça peut le mettre en cause et donc va classer sans suite cette affaire, n'aura pas les moyens de se payer l'excellent avocat qu'est Olivier Messner pour continuer à avoir rendre justice. Et c'est ça que je dénonçais simplement dans ce livre « Une juge à abattre », c'est-à-dire que la justice doit être égale pour tous, chacun doit y avoir accès et chacun doit pouvoir se voir rendre justice. Et les gens qui sont prévenus doivent avoir le droit de se défendre. Or, dans ce pays, ça n'est plus le cas, ça n'est même plus une justice à deux vitesses, c'est une justice à quatre vitesses. Voilà, parce que la quatrième vitesse, c'est les gens qui ne verront jamais un tribunal par la grâce de leur réseau d'influence. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et une fois de plus, quand je parle dans ce livre, ça m'a été reproché, il y a une procédure disciplinaire. Je suis prête à répondre de cela devant le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai des choses à dire. Visiblement, ça ne se bouscule pas pour m'envoyer devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je ne sais pas pourquoi. On a peut-être peur de ce que je vais expliquer. Mais ce qui est clair, c'est que continuer comme ça, ça n'était pas possible d'accepter ce système.
Merci Isabelle Prévost-Desprez. Cette affaire, c'est aussi un symptôme, c'est aussi révélateur aussi d'un malaise dans le monde de la justice. Et je voudrais vous livrer un chiffre, parce que moi je l'avais publié récemment au moment de la publication du dernier rapport de la Cour des comptes en France, qui est assez édifiant. C'est, vous verrez un petit peu ce que recouvre en fait tout l'ensemble de la finance occulte, de la corruption, de systèmes mafieux, comme l'ont très bien expliqué les deux Italiens, donc le procureur et l'auteur de roman qui est ici. C'est ce chiffre, c'est une estimation, bien entendu. Hein, on peut pas, c'est la finance occulte. C'est très difficile de savoir la réalité des choses, mais enfin, le niveau est très très élevé, au point qu'en France, nous en sommes à 220 milliards d'euros de blanchiment d'argent. Donc ce terme de blanchiment d'argent, au sens de Tracfin, qui est une organisation en France, qui existe en France, de traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins. Tout ça est dans le dernier rapport de la Cour des comptes, bien entendu, qui est public. Et ce chiffre représente, qui est un chiffre qui remonte à 2010, parce que c'est très difficile, évidemment, de recenser toutes les affaires et de savoir réellement ce qui se passe, représente plus de 10% du produit, de la production de richesses en France. C'est... Vous voyez un petit peu, vous avez un ordre de grandeur, etc. Ça vous donne aussi un ordre de grandeur du malaise et aussi de l'importance aussi du rôle qu'ont à jouer une justice indépendante, parce que c'est aussi la question. Je ne sais pas ce que vous pensez d'ailleurs du fonctionnement de la justice italienne par rapport à la France. Bon, vous l'aviez déjà expliqué un tout petit peu, mais est-ce que c'est déjà ça serait un premier pas, Isabelle Prévost-Desprez, de cette indépendance de la justice dont parlait Roberto Scapitano?
Mais vous savez, ce qui est fou, c'est bien la preuve qu'on est dans un monde qui marche sur la tête, c'est que l'indépendance de la justice, elle est garantie par le président de la République. Le principe des séparations des pouvoirs est dans notre Constitution. Et donc, ce sont des évidences, c'est-à-dire, là, de manière tout à fait... incidente et accessoire, je suis en train de défendre quelque chose qui est la loi et la constitution dans ce pays et un des fondements de la démocratie, c'est-à-dire que les juges doivent être indépendants, on doit respecter leur indépendance. Et c'est vrai qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas les mêmes sanctions qu'aux États-Unis, par exemple, où s'attaquer à un juge ou mettre en cause l'indépendance d'un juge est un crime. Voilà, donc on en est quand même arrivé dans une situation tout à fait perverse où nous sommes, nous, les juges, obligés de nous battre dans l'intérêt de tous pour faire respecter ce qui est écrit dans la Constitution et ce qui est un des piliers de la démocratie.
Bien, je pense qu'on va arrêter donc notre débat maintenant. Donc je tiens évidemment à remercier le procureur Roberto Scapitano. Les appels Prévost-Desprez, vous pouvez aussi applaudir pour ça. son courage. Et évidemment, Gioacchino Priaco, parce que là aussi, être auteur d'ouvrages comme ceci, c'est tout de même, c'est pas du tout évident. Voilà, donc merci à tous. Et puis aussi, un grand merci au traducteur Jacques Sultan, qui a bien assuré, mais très clairement, cette traduction. Voilà. Merci.